Alors, je vais commencer, Véronique, par le petit texte qui est en exergue dans ton livre. Pour apprécier la vie, il faut saisir et entretenir l'esprit d'aventure. La caractéristique principale de l'aventure, c'est d'avancer en terroir inconnu. La joie de l'aventure est inexplicable. C'est l'attrait du travail artistique. Il est aventureux, intense et joyeux. Voilà. Et je trouve que ça introduit bien le travail que tu as fait pendant 10 ans pour écrire ce livre. Et voilà, tu vas nous expliquer un petit peu comment cette aventure a commencé.
Merci Brigitte, merci le gang, parce que j'ose plus, j'avais dit le gang des filles, mais je sais qu'il y a des garçons. Donc le gang des livres, merci de m'accueillir, en tout cas je suis très très heureuse d'être là. Et je pense qu'Ilma serait très heureuse aussi d'être accueillie par un gang, parce qu'elle en avait un, elle aussi, mais on verra plus tard. En tout cas, je tombe, même pas sur les œuvres, hein, je tombe sur le nom d'Ilma Afklint en mai 2016 dans une revue d'art, je ne sais plus si c'est Beaux-Arts ou Connaissance des Arts, un entrefilet sans image aucune qui explique que Ilma Afklint avait fait une petite exposition, il y avait une petite exposition à Berlin qui se terminait et rien d'autre. Et il y avait juste cette date, elle est née en 1862 et elle est morte en 1944. Et là, je me suis dit, tiens, c'est étrange, jamais entendu de ma vie ce nom, Ilma Afklint. Et j'ai un peu déchiré la page. Et je me suis dit, bah tiens, je regarderai ce que c'est. Et à cette époque-là, je travaillais justement sur le Japon. Je préparais un voyage au Japon pour écrire le livre précédent, La lumière carrée de la lune, et je me suis dit, sur les traces d'un maître japonais qui n'avait pas laissé de traces, donc qui était aussi inconnu. Donc, une femme inconnue, je me suis dit, c'est pour moi. Et donc, quand je suis revenue de ces voyages au Japon et que j'ai publié le livre, je me suis intéressée particulièrement... Enfin, juste après avoir vu son nom, je suis quand même allée sur Internet... Et là, j'ai vu ça, des choses comme ça. C'est-à-dire, je m'attendais à voir une femme peintre des années... Il y en a plein, des femmes inconnues de ces années-là, mais qui sont ce qu'elle était aussi, paysagiste. Or, je vois ça, je vois ça, je vois une peinture abstraite. Et je me dis, c'était quand même étrange que personne... qu'elle ne soit pas connue du tout. Alors, je commence à poser des questions, ici ou là, à des gens bien plus cultivés que moi. Et personne ne me dit « Ah, mais si, je la connais », etc. Donc, voilà, je commence à enquêter et je crois que j'ai fait mon premier voyage à Stockholm en 2019. Mais je ne savais pas du tout ni ce que j'allais faire, ni comment, si j'allais écrire quelque chose, ou je suis allée au musée d'art moderne à Stockholm, il y avait quelques toiles, et puis je suis allée un peu sur les traces, je suis allée là où elle était, où elle était née. Alors, Ilma est née en 1862 dans une famille de l'aristocratie suédoise militaire, son père était militaire, c'était un homme de la marine. Sa mère était femme au foyer, mais elle s'intéressait beaucoup à la botanique, comme beaucoup de Suédois. Vous savez que c'est le pays de Linné, et la botanique aura eu beaucoup d'importance pour elle. Et puis, son père était aussi cartographe. Donc, d'ailleurs, je l'ai imaginé dans le bureau de son père, en train de copier les cartes marines, ce qui me semblait une inspiration après pour son œuvre. Bref, je m'aperçois, donc je suis face à une femme peintre du 19e siècle que je pense être invisibilisée, comme beaucoup de femmes artistes de cette époque-là. Et puis, je m'approche un peu plus, et puis je m'aperçois, j'entends qu'elle était... médium, spirit. Et là, je me dis, oh là là, zut, il va falloir que je... il va falloir plonger dans autre chose. Et puis, de toute façon, je me dis, oh ben, j'y arriverai pas, je parle pas suédois, ça va être une enquête encore terrible, alors je vais pas. Et puis, au moment où je me dis ça, sort en Allemagne une grosse biographie sur elle, faite par une journaliste allemande qui a fait tout le travail que j'aurais dû faire. Et par chance, je lisais l'allemand. J'avais fait des études d'allemand je me disais, mais à quoi ça m'a servi ces études d'allemand? Eh bien, ça m'a servi à écrire ce livre-là. Et donc, je pense que Ilma me cherchait et qu'elle m'a trouvé. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire quelque chose avec elle et j'ai commencé à enquêter. Donc, je m'aperçois que c'était une femme extrêmement spirituelle, qu'elle avait des dons de médium. Donc, je suis allée voir le médium. Elle était spirite. Je me suis intéressée à ce que c'était que la société spirite. Et là, ma foi, j'ai découvert. Brigitte te parlait de. Ça a été une aventure complète. Pas seulement une aventure vis-à-vis de la peinture. Ça a été une aventure spirituelle pour moi. Je suis rentrée dans ses pas. Et j'ai compris aussi ce que je n'avais compris avec personne, ni avec Kandinsky, ni avec Mondrian, ni avec Malevitch. J'ai compris avec elle ce que c'était que l'abstraction. Comment ces peintres en étaient arrivés à l'abstraction. Et si je pense qu'elle était inconnue, c'est que elle, on ne pouvait pas se passer de sa personnalité spirituelle pour expliquer son travail, alors que les autres, si. Donc, voilà, je vais voir une médium à qui je... Parce qu'elle fait donc... Donc, elle grandit à Stockholm, dans cette famille bourgeoise, aristocrate. Et puis, là, je découvre la Suède de cette époque-là. Et la Suède de cette époque-là était très avancée par rapport à l'Europe, enfin, la France et l'Europe du Sud. La situation des femmes était bien avancée, c'était normal d'être... Il y avait des lois qui faisaient qu'à partir de 25 ans, une femme célibataire, par exemple, ne dépendait plus de son père. Elle pouvait être, même si elle n'était pas mariée, elle pouvait être autonome. C'était normal, on pouvait imaginer qu'elle travaille, ce qui n'était pas le cas ici. Donc toutes ces femmes étaient très... très libre, très en avance. Il y a eu une loi, ça m'a frappé, une loi en 1848, une journaliste suédoise qui a gagné un procès pour tentative de viol. Je dis pas pour viol, je dis pour tentative de viol. En 1848. On en est encore loin. Donc je découvre cette société de femmes extrêmement avancées et de femmes artistes. À Stockholm, il y avait des communautés de femmes artistes. Alors, elle rentre aux Beaux-Arts à 20 ans, après avoir fait des ateliers. Et là aussi, elle n'aurait pas pu rentrer aux Beaux-Arts en France, puisque c'était interdit aux femmes. Mais en Suède, c'était la deuxième génération de femmes qui pouvaient rentrer aux Beaux-Arts. Alors, bien sûr, les femmes n'étaient pas dans les mêmes ateliers que les hommes. Hein. Il y avait des ateliers pour femmes et des ateliers pour hommes. Mais, et puis, les professeurs étaient tous des hommes. Mais elles pouvaient suivre des études académiques d'art. Et ça, c'était unique en Europe, mais unique au monde. Elles dessinaient des hommes nus, par exemple, ce qui était inimaginable. Et Ilma est une artiste, je pense, toute petite, extrêmement douée, comme elle était un peu spéciale dans sa famille. Alors, il faut dire que la famille, ce qui explique aussi... dans la famille Afklint, avait perdu un premier enfant à 2 ans, l'aîné, une petite fille, et perdra un deuxième enfant qui est morte à 10 ans quand Ilma avait 18 ans et Ilma était très attachée à sa petite sœur. C'était une fratrie de 5, dont 2 enfants morts. Et je pense que ce rapport avec la mort, très intime, qui se passe plus que dans n'importe quelle, face à n'importe quelle mort, quand dans une famille on perd un enfant, ça éveille des choses particulières et un goût pour la communication avec l'au-delà. Et donc, est très atteinte par la mort de sa petite sœur, la deuxième, qu'elle connaît donc très bien, qui meurt une mort subite, on ne sait pas exactement l'origine. Et elle a 18 ans. Et à ce moment-là, elle rencontre Bertha Valerius, qui est une artiste de Stockholm, qui l'entraîne dans les milieux spirites, où c'est la grande époque du spiritisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le spiritisme ? Il faut bien savoir qu'à cette époque-là, l'athéisme n'existait pas. Le matérialisme n'existait pas. Mais ce qui existait, en revanche, c'est des religions très bien en place. Alors, en Suède, c'était les luthériens. C'était un pays protestant luthérien. Et donc, la religion était très puissante. Et le spiritisme arrive dans cette deuxième moitié du 19e siècle par des États-Unis, créé par une femme qui s'appelait Elena Blavatsky, qui était d'origine russe, et qui, elle, commence à faire des recherches dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans tous les pays, dans toutes les formes de pensée spirituelle, et qui crée le spiritisme, c'est-à-dire une pensée qui est au-delà des religions. On peut être protestant et spirite, catholique et spirite. Mais les spirites pensent que parallèlement au monde matériel, il existe un autre monde dans l'au-delà qui est tout aussi fort que le monde matériel, nous là, par exemple. Et les spirites ont aussi... Alors, c'est l'époque, hein, c'est une époque qui ressemble un peu à celle que nous vivons maintenant. Il y a énormément d'inventions. Il y a bien sûr l'électricité, le téléphone, la photo, la photographie. Je me suis demandé pourquoi elle ne faisait pas de photographie, par exemple. Le cinéma. C'est les premières années des Jeux Olympiques, donc une sorte de plus grand horizon que le seul pays. Il y avait en Grèce les premiers Jeux Olympiques qui ont convoqué tous les sportifs d'Europe. Donc ça commence, il y a une évolution incroyable, mais en même temps, tous ces gens très évolués, c'est-à-dire les Nikola Tesla, Edison, tous les artistes, se passionnent pour la philosophie spirit et deviennent spirit. Donc, il y avait dans ces pays-là des choses, des genres de salons, de littéraires, scientifiques, où tous ces gens-là se réunissaient pour parler de tout, de la vie. Et la loi du spiritisme, c'est la loi du progrès. À savoir, Elena Blavatsky dit « on est tous égaux ». Et on vient tous d'une même matrice, on est une même humanité. Blanc, noir, jaune, rouge, femme et homme. On est tous à égalité et on est là, on est des âmes qui s'incarnent, et ça c'est très très important pour l'histoire d'Ilma. On est des âmes qui se sont incarnées avec une mission, progresser avant la vie future. Donc, Ilma, elle a choisi, donc, d'après les spirites, on a un plan de vie. Donc, Ilma aurait choisi pour mener sa vie d'artiste femme, on peut dire au départ. Je veux être une artiste femme. Mon plan de vie, c'est d'être une artiste femme. Où dois-je naître ? En Suède. En Suède, c'est là que c'est le mieux pour les femmes. Et puis, donc, effectivement, c'est là que c'était mieux pour les femmes de naître. Et elle a pu, à 35 ans, Ilma avait un atelier à Stockholm. Et elle gagnait sa vie en faisant des portraits, des paysages, elle vendait ses peintures, elle faisait des couvertures de livres pour enfants, des couvertures de magazines, des motifs de broderie. Enfin, elle gagnait sa vie. Et dans l'annuaire, parce qu'il y a un téléphone avec très peu de numéros, j'imagine, il y avait Ilma af Klint, artiste peintre.
Par rapport à ces femmes de cette époque invisibilisées, il se trouve, et vraiment, on va dire que Saint-Véran a un lien avec ces femmes-là, puisque l'année dernière, cette école, qui n'avait pas de nom, a été baptisée Alice Milia. Et Alice Milia, tu parlais des Jeux Olympiques, c'est cette grande sportive qui s'est battue pour que les femmes puissent faire du sport et pour qu'il puisse y avoir des Jeux Olympiques de femmes. Donc vraiment, et au niveau du cinéma, on a eu aussi un spectacle sur Alice Guy, qui était aussi une des premières femmes à faire du cinéma. Donc voilà, donc vraiment, on est dans une espèce de dynamique. Non, mais il y a eu un spectacle à Saint-Marcin. Voilà, donc on est dans cette dynamique et ça tombe très bien. Marie-Jeanne, à vous.
Alors, c'est le début du livre de Véronique. Une œuvre, c'est un nom logé entre deux dates, la naissance et la mort. Au XIXe siècle, être une femme artiste et vivre de son art, c'était un sacré défi. J'aurais pu me contenter d'exercer mon talent, j'ai cherché à ouvrir une voie nouvelle. Comme beaucoup de femmes de cette époque, je pensais que les détails de la vie intime enfouiraient mon travail sous un fatras d'occupations et de préoccupations féminines qui le minimiseraient. Alors, j'ai effacé les traces. J'ai détruit les correspondances qui témoignaient de mes états d'âme. J'ai brûlé mes brouillons. Dans la création, on vit au présent. On est disponible à ce qui arrive. On accepte l'imprévu. On peut avancer avec la fulgurance d'une étoile filante, rester stoppé en pleine campagne, sans pouvoir descendre du train, éprouver des moments d'exaltation, de désespoir, d'écœurement, des envies de mettre le feu au campement pour avoir une bonne raison de se jeter dans le torrent ou de retourner sur nos pas. Qu'importe donc que j'ai aimé les fraises ou les harengs? Qu'importe donc que j'ai préféré faire l'amour avec des filles ou des garçons? Qu'importe ce que j'ai ressenti quand j'ai renoncé au mariage ou à la maternité? Quand j'ai compris que je n'aurais même pas le soutien de ceux en qui je croyais le plus? Qu'importe? Il y avait des choses sur lesquelles je n'avais aucun doute, mais que je ne pouvais pas expliquer. Je dirais que nous sommes tous reliés à une source, et un jour mes pinceaux m'ont donné accès à cette source. J'ai laissé aller le passé pour embrasser ma destinée en naviguant sur une mer qui n'avait pas encore été cartographiée. Une œuvre, c'est un voyage dans un pays sans frontières, où la réalité se marie à l'imaginaire, où le visible coopère avec l'invisible, où dans les profondeurs intermédiaires se dévoilent des territoires qu'on ne peut entièrement apprécier qu'avec le cœur. Pour explorer l'inconnu, il a fallu lâcher, renoncer, abandonner. Aujourd'hui, j'ai besoin de revisiter mon histoire, d'y ajouter des strates, de l'affiner, de la contester. Je ne veux pas qu'on dise « Ilma af Klint, ah oui, celle qui peignait des diagrammes colorés, de l'art décoratif, oui, assez joli. Original pour une femme même. » Ce qui compte, c'est ce que j'ai de commun avec Kandinsky, Munch, Kubka, les artistes qui ont innové dans l'art du XXe siècle. Comme eux, je m'intéressais à la philosophie, à la physique, aux mathématiques et aux sciences occultes. Comme eux, j'ai cherché à peindre la réalité invisible de la vie. Comme eux, j'ai renoncé à la figuration. Et comme eux aussi, je prêchais la spiritualité dans l'art. Mais je n'étais pas comme eux. J'étais une femme. On n'a pas voulu retenir de moi que j'avais étudié la théorie des couleurs, l'astronomie, la mécanique quantique, que j'étais familière des recherches de Goethe, de Swedenborg, de Max Planck. On n'a surtout pas voulu retenir de moi que j'avais renoncé au figuratif avant eux. Pour m'écarter des bons circuits du marché de l'art, il a suffi que quelqu'un lance Ilma af Klint, ah oui, la Suédoise qui faisait tourner les tables. Mais à mon époque, tous les artistes étaient spirites. On ne s'en cachait pas. Ça a été une formidable aventure spirituelle, intellectuelle et artistique. De Kupka, on a retenu qu'il avait inventé l'abstraction, pas qu'il était médium. Moi aussi, j'ai inventé une figure non figurative, mais parce que j'étais une femme, j'ai traîné une étiquette de sorcière pendant tout le XXe siècle. Elle a parasité ma mission de vie et détourné de mon œuvre les historiens de l'art. Désormais, je travaille à hanter les vivants pour que mon nom prenne sa juste place parmi les étoiles. L'univers me répond. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent. La rétrospective qui a eu lieu à la Fondation Guggenheim de New York, l'exposition de la Tate Gallery Ilma af Klint et Piet Mondrian à Londres, Ilma af Klint et Vassili Kandinsky à Düsseldorf. On pourrait maintenant ajouter l'exposition au Grand Palais de Paris. La biographie de Julia Voss publiée en Allemagne et des quantités de fans sur les réseaux sociaux qui participent à ma reconnaissance. La vie de l'artiste a besoin d'être racontée et racontée encore pour éclairer l'œuvre et lui donner tout son sens. La répétition permet de mieux comprendre d'où vient le désir de créer, où il mène et pourquoi. Une œuvre, c'est le reflet d'un chemin de vie et c'est souvent dans les plus petits détails signalés dès l'enfance que se nourrit l'inspiration. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de prendre voix, mais par quoi commencer? Peut-être par la chute qui a auguré de ma fin le 9 octobre 1944.
Merci Marie-Jeanne.
Du coup, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi tu as fait ce choix de la fiction et de faire parler l'artiste? Non, voilà, c'est...
Parce que mon éditrice chez Actes Sud me disait « Prépare-toi à ce qu'on te pose cette question. Pourquoi tu as fait écrit à la première personne ?» Et je lui ai dit « Écoute, c'est simple, je n'aurais pas pu l'écrire autrement. » Je n'aurais pas pu, il fallait que j'investisse sa pensée, que je m'associe à cet esprit qui était d'une liberté incroyable. Et c'est une chose de dire je crois que mon guide est là aujourd'hui et qu'il m'accompagne dans cette présentation. C'est une chose de dire je, que de dire elle croyait aux esprits. Donc je me suis dit c'est quand même beaucoup plus fort. Donc je suis allée voir une médium. Je vais vous raconter ça parce que c'est quand même peut-être que certains d'entre vous en connaissent, en ont vu. Il y en a peut-être dans la salle, non? Pas de médium.
Bon. Est-ce qu'il y a des médiums dans la salle?
Donc je suis allée voir. J'ai pris rendez-vous avec une médium. Et je voulais l'interviewer. Je suis journaliste, moi je n'allais pas lui demander ce qu'il allait m'arriver, mais je voulais l'interviewer sur comment ça fonctionnait. Et donc j'arrive, j'avais rendez-vous avec une dame que j'avais choisie parce qu'elle était asiatique et comme je revenais d'Asie, j'étais attirée par tout ce qui était asiatique. Et j'ai rendez-vous avec elle un jour à 2h à Paris, dans le 13e arrondissement. Et j'arrive, je sonne, personne. Je dis, ça commence bien. Et j'attends un peu, je me dis, oh, bon, je vais partir. Ah, trop contente en même temps. Je me disais, oh. Et puis, une petite dame surgit d'un autobus et me dit, ah, c'est au 6e étage, suivez-moi. Elle ne me demande pas si j'étais vraiment la cliente. Donc, je me suis dit, bon, ça doit bien être elle. Et je suis arrivée au 6e étage d'un immeuble où il y avait une petite pièce minuscule, une ancienne chambre de bonne, très, très petite. Il y avait juste... Alors, elle m'avait demandé d'attendre à la porte pour qu'elle se prépare. Elle avait allumé des bougies. Il y avait une espèce de mansarde crasseuse. Mais tout était... Et je rentre, je m'assois. Elle avait préparé... j'ai toujours un carnet... En fait, elle avait préparé de quoi prendre des notes. Elle disait, il faut prendre des notes parce que je ne sais pas si vous allez comprendre et même si moi, je vais comprendre ce que je vais vous dire. Mais peut-être que ce sera compréhensible plus tard. Et donc, j'ai commencé à essayer. D'ailleurs, j'ai compris que ce n'était pas facile du tout, qu'elle avait des flashs qui étaient presque douloureux. Mais il y a une chose intéressante, à cette époque-là, je n'avais qu'une idée, j'avais commencé à préparer un voyage en Suède, et je m'étais dit, ah ben, je vais aller remonter dans tous les endroits de Suède où est passé Ilmar, je vais bien m'imprégner de la Suède, etc. Et là, elle me dit, le Nord, pour vous, rien. Ah, je dis, zut. Rien. Et alors c'était un peu, tout était comme ça, un peu contrariant, donc j'étais un peu amusée en même temps, et il se trouve que quand même c'était 5 minutes avant la Covid, donc j'ai pas pu faire mon voyage à cause de ça. Je me dis non, le Nord, non, vous, le Sud, bon, alors j'ai eu acte Sud. Mais tout était comme ça, très mystérieux. Et puis, à un moment donné, donc elle me parle quand même de beaux-arts. Elle me dit, je vois des choses artistiques, un livre, beaux-arts. Enfin, elle voyait des œuvres. Ça, c'est clair. Puis, à un moment donné, elle me dit, c'est pas la peine de revenir me voir. Alors, je dis, oh là là, j'ai pas dû lui plaire. Catastrophe. Zut. Oh, je dis, bon, au prix de la séance, elle aurait pu faire un effort. Et là, elle me dit, ce n'est pas moi qui vous dis ça. Ah, j'avoue. Elle me dit, c'est vos guides qui vous disent de ne pas revenir me voir. Vous n'avez pas besoin de moi. Et vous n'avez besoin de personne. Vous êtes aussi médium. Alors, je suis sortie de là. Je me souviens très très bien que je suis restée. J'ai ressenti quelque chose de très joyeux en même temps. Et je suis sortie de là rassurée et totalement libérée. Et je me suis dit, ben voilà, on me donne la liberté ou j'ai la liberté de faire ce que je veux. Parce que c'était pas facile de dire je vais écrire à la première personne. Et là, je me dis, ça veut dire que si j'écris à la première personne, je serai inspirée. C'est ça, l'inspiration. Les artistes sont tous des médiums. Ils reçoivent une inspiration à un moment donné. D'où, alors il y en a qui parlent beaucoup de ça, Philippe Kadic, des gens comme ça qui disaient communiquer directement avec l'au-delà. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on me donne là la liberté d'écrire à la première personne. Et je suis rentrée chez moi assez heureuse. Et puis ça a duré quelques temps. Et ça, c'était au mois de fin novembre, enfin avant Noël. Et puis le 1er janvier, je me suis dit, bon, bah, je commence à écrire là, ce jour-ci, aujourd'hui, 1er janvier. Et ce qui sortira de ma plume sera un livre, ou alors j'arrête tout. Je change de sujet, je passe à autre chose. Et effectivement, j'ai commencé à écrire à la première personne. Et comme j'avais quand même... j'ai beaucoup lu, mais tout ce que j'ai lu... D'abord, je lisais cette biographie en allemand, rappelez-vous. Je lisais énormément. Il n'y avait rien en français. Je lisais des catalogues en anglais. Donc, tout était passé déjà par un prisme un peu... Et puis, ce jeu m'a donné une liberté. Je me suis dit, mais voilà, là, moi, je peux dire que ce que je veux. Qui va me dire le contraire? Vous n'auriez pas dû dire qu'elle faisait tourner les tables et qu'elle communiquait avec les esprits. Ouais. Elle dit simplement ça. Elle dit, pour moi, il y a une pièce, dans chaque personne, il y a une pièce intérieure. Et dans cette pièce intérieure que vous avez là, il y a des esprits, il y a des guides avec qui vous pouvez parler, communiquer, si vous les écoutez. Alors, quand elle dit ça, après, elle commence à faire des études, elle fait de la méditation. Alors, ce qu'elle a de très fort aussi, Ilma, c'est qu'elle a un groupe de copines, le gang d'Ilma. Elles sont cinq. Et elles se réunissent. Donc, il y a Ilma, il y a Anna Cassel, sa meilleure amie, il y a Cornelia Sederberg, une copine de Beaux-Arts, une autre. Et puis, il y a Sigrid Etman, qui est une médium. Et j'ai un trou sur la suivante, qui est la cinquième, qui est une écrivaine et qui anime une revue spirit. Et elles se réunissent tous les mois. Et moi, j'ai un groupe de copines depuis 30 ans. On s'est journalistes avec toutes des qualités et des personnalités très, très différentes. Et on se réunit aussi, on est resté copines tout le temps, on a maintenant un groupe WhatsApp, on s'est réunis tous les mois, et quand on était ensemble, ça fusait de partout, de toutes les idées, et je me suis effectivement inspirée de ça aussi. Et donc ces femmes-là se réunissent, étudient dans des groupes spirit, et étudier, ça veut dire étudier l'alchimie, étudier la numérologie, l'astrologie, toutes ces... une chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est que c'est le XXe siècle qui a tout séparé. Mais avant, les mathématiques n'étaient pas dissociées de l'étude des nombres. Et la numérologie, c'est l'écriture de l'univers est faite en nombres. Et quand on commence à s'intéresser à ça, alors là, le chiffre, par exemple, d'Ilma, c'est le 8. Son chiffre personnel, c'est le 8. Alors, je ne sais pas si vous connaissez votre chiffre, à vous, c'est en fait ta date de naissance. Voilà. Donc, le 8, c'est quoi le 8? Le 8, c'est deux cercles superposés. Et deux cercles superposés qui disent tel en haut, tel en bas. Et quand on met le 8 sur le côté, qu'est-ce qu'il y a? L'infini. Et ça, c'est tout Ilma, tout ce qu'elle va essayer de... Alors, il y a le visible et il y a l'invisible. Alors, qu'est-ce que c'est que l'invisible? Eh bien, si on prend, par exemple, elle étudie Newton, forcément. Newton et la décomposition de la lumière en couleurs. Et ses œuvres sont extrêmement colorées. La numérologie, l'astrologie. Et on voit d'ailleurs des signes dans ses peintures d'astrologie. Et donc à cette époque-là, après la guerre 14, l'arrivée du marxisme, du matérialisme qui a séparé la médecine scientifique de la naturopathie, qui a séparé l'astronomie de l'étude de l'astrologie, qui a séparé la philosophie de la métaphysique de la physique. Enfin, c'est à partir de là qu'on a tout séparé. Mais avant, tout était, et les, par exemple Goethe, que vous connaissez sans doute pour avoir écrit Faust, enfin, comme homme de lettres, en fait, était aussi un scientifique et un chercheur. Donc, tout était ce monde-là et fascinant, et m'a fascinée. En fait, j'ai écrit l'histoire d'Ilma, mais j'ai découvert un monde qui maintenant m'habite d'une autre manière.
Le groupe des cinq, qu'est-ce que ça fait naître au niveau de la création? Ça fait évoluer, changer un certain nombre de...
Oui.
Des choses.
Ah ben tout à fait. Donc elles se réunissent tous les mois. Et puis, c'est vrai que je m'étais demandé pourquoi elle n'avait pas fait de la photographie, par exemple, puisque la photographie à l'époque c'était le nouveau moyen d'expression et de création. Et il y a beaucoup de femmes artistes qui ont fait de la photographie. Et justement, la photographie et beaucoup de femmes artistes qui croyaient aux esprits. Sauf que la photographie, je ne sais pas si vous avez des vieilles photos de cette époque-là, mais moi j'en ai vu, et il y a toujours des flous, on a toujours l'impression qu'il y a des silhouettes. Donc on peut dire que c'est un peu trafiqué. Donc il y a des femmes, il y a une Anglaise très célèbre, Georgina Hutton, mais elles disent, bon, on va faire de la peinture et on va demander, parce que moi, ma soif, c'est la couleur. Et on va demander aux esprits de nous inspirer. Alors, elles se réunissent et elles font de la méditation, et elles demandent aux esprits, à leurs guides, de les inspirer. Et en 1906, elles reçoivent comme mission de peindre 10 grands tableaux pour un temple. Et c'est là qu'elles font ces magnifiques tableaux qu'on voit là, par exemple. Elles commencent et elles travaillent ensemble. Il y en a qui reçoivent des messages, Cornelia Sedeberg, par exemple, reçoit des messages, des dessins. Elle reçoit elle a reçu, par exemple, dans ces années-là, des messages, le graphique de l'ADN. Elle l'a reçu, elle l'a fait en écriture, en dessin automatique. Elles font des dessins automatiques, elles méditent, petit à petit, elles ont donc cette mission. Alors ça, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, oh là là, comment je vais m'en tirer avec tout ça? C'était effectivement, j'écris en plusieurs parties, à chaque fois du point de vue de son esprit à elle. Puisqu'elle croit aux esprits, c'est son esprit qui me parle. Enfin, que je mets à la première personne. Ce qu'a lu Marie-Jeanne, c'est ça.
Ces peintures sont très très grandes. Déjà, elles ne sont pas signées, puisque c'est une œuvre
collective. Voilà, c'est une œuvre collective et ils ne sont pas signées. C'est la première. Je pense que c'est le premier travail au monde d'artiste qui ne signe pas leur œuvre. Et là, alors. Il y a cette histoire de temple. Elles sont ces tableaux qui sont donc grands comme des portes de grange, avec beaucoup de spirales, parce que la spirale. Elle s'intéresse à la géométrie, mais la spirale, c'est le grand mystère de tous les mathématiciens. Et la spirale, c'est ce qui permet de sortir du cercle, c'est donc qui permet d'évoluer et qui fait. Qu'on peut imaginer passer du visible à l'invisible, justement. Tout ce. On est là, mais il y a la dématérialisation. Donc, elles font ces 10 tableaux. Pourquoi ? Pour quel temple ? Bien plus tard, une des premières grandes explications, rétrospectives d'Hilma Avkin, qui restera inconnue pendant donc. Jusqu'en 86, et la grande exposition où ces grands tableaux-là seront vraiment exposés avec tout le reste, ce sera à New York, à la Fondation Guggenheim, que certains connaissent peut-être et qui est en forme de spirale. Or, elle avait dessiné le fameux temple, elle l'avait dessiné, et quand on voit les dessins, ça ressemble pas mal à cette architecture de l'architecte américain, rappelle-moi. Rappelle-moi, Daniel. Frank Lloyd.
Oui.
Bravo. Voilà. Tout ça est toujours. Alors, elle fait des liens avec tout, et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai fait des liens.
Quand même, je voulais te poser une question. Comment ça s'est fait ? Est-ce que c'est vraiment le hasard que ton livre sorte, après 10 ans de travail quand même, en même temps que cette exposition à Paris ? Quel a été le... Comment ça s'est passé ?
Moi, je pense que...
C'est médium.
Alors maintenant, je suis très très proche d'Hilma, et je pense qu'elle m'avait choisi. En tout cas, en 2024, je me dis, oh mon Dieu... je n'ai pas trouvé d'éditeur, elle n'est pas connue. Mon éditrice passe par Paris et je lui dis, je vais te faire de la lecture. Alors, je lui fais la lecture, comme Marie-Jeanne vous a fait, là. Et puis, elle me dit, c'est bien, mais elle n'est pas connue, ta peintre. et je lui dis, mais on ne sait pas, t'es pas au courant des expositions qui peuvent avoir lieu J'imaginais une exposition à Saint-Véran ou à Marmottan. Quelque part en France, une expo. Bon, elle me dit, ah non, tu sais, c'est le monde de l'art et le monde de l'édition, c'est deux mondes très, très séparés. Ça, c'était en juin. Et en août, j'étais dans un train, elle m'appelle, et elle me dit, il arrive quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle vit à Arles. Elle dit, j'ai déjeuné ce midi avec une ancienne copine de fac qui travaille maintenant au Grand Palais et qui m'a annoncé qu'une exposition sur une Suédoise inconnue au Grand Palais en 2026. Et l'autre, évidemment, trop contente de dire « Ah, mais je la connais, on a un livre !» Et là, donc, je me suis dit « Bon, ben voilà, avait vraiment envie d'exister en France, où elle n'est jamais venue. » Elle n'est jamais venue en France, elle a beaucoup voyagé. Les artistes suédois venaient tous en France. C'était la grande époque de Monet, de l'impressionnisme. Ils venaient aussi en Bretagne. Et puis, ils parcouraient la France. Et ils ont laissé beaucoup de traces, d'ailleurs, de leur passage en France. Elle n'est jamais venue. Il se trouve que quand elle aurait dû venir, ben justement, je pense que sa famille était un peu dans le chaos parce qu'elle avait perdu cette petite sœur. Et son amie Anna Cassel, qui était son amie de Beaux-Arts, là, elle faisait des crises d'asthme très fortes, donc ce n'était pas possible de voyager. Donc elle est restée en Suède à ce moment-là. Mais elle a voyagé, après elles ont voyagé, elles sont beaucoup allées effectivement en Norvège, en Allemagne, en Belgique, en Italie, mais pas en France. Donc, elle n'était pas connue en France, parce que finalement, quand les artistes laissent des petites traces, alors elle avait été exposée dans une expo collective il y a quelques années, là, à Beaubourg. Mais depuis, il n'y avait rien et elle était très peu connue. Et même le Grand Palais était un peu inquiet. Tout était important, les sons, les couleurs. Et qui a décidé de peindre la musique comme elle ? Kandinsky. Mais ils ne se connaissaient pas. Hein. Ils ne se sont pas fréquentés. Hein. Mais ils ont fait les mêmes parcours. Et donc, Denis va nous lire un petit passage.
Kandinsky est parti en Russie. Je suis retourné sur mon île, décidé à me construire ma place à l'ombre. Il fut fascinant de découvrir après coup que nous avions été guidés, lui et moi, et que sans le savoir, nous marchions dans les mêmes traces. À Munso, je me suis attelé à la plus grande série de toute mon œuvre, Parsifal. 144 aquarelles. J'y donnais une géométrie à l'opéra de Wagner. La musique accrochait des ailes à mes carrés pastels. Pour moi, ces images n'étaient pas réductibles à des propriétés visuelles, elles étaient destinées à déclencher des métaphores auditives dans le psychisme de ceux qui les contemplaient. Les couleurs avaient le don de délimiter l'espace poétique où étaient catalysées les mémoires sensorielles qui traversaient l'œil. Pendant ce temps, Kandinsky, un pinceau sur l'oreille, écrivait « L'eau en grains me donne envie d'interpréter les couleurs de l'âme. »
Kandinsky a écrit du spirituel dans l'art. Il a étayé son travail par ce livre. Et Kandinsky, il a exposé la première fois à Malmö dans une expo collective et il a fait un scandale où il m'a exposé aussi une œuvre, mais qui n'était pas une œuvre abstraite. Donc Kandinsky fait scandale, donc elle a écho de la présence de Kandinsky et de son travail. Elle n'y était pas allée en disant oh non, parce que ses copines avaient choisi autre chose, elle devait exposer autre chose. Et elle se dit, ah zut, tiens, il y a quelqu'un qui fait la même chose que moi, qui a la même démarche que moi. Alors, il y en a un autre qui a eu la même démarche qu'elle, c'est Mondrian. Et Mondrian était aussi, alors, je vous en ai pas parlé, mais c'est la grande époque des théosophes. Donc, les spirites étaient théosophes, aidés, et après, les anthroposophes. Et l'anthroposophie est une filiale de la théosophie qui a été fondée par Rudolf Steiner. Et donc, Ilma était une grande admiratrice de Rudolf Steiner. Elle adorait absolument sa pensée. Alors, Rudolf Steiner vient un jour à Stockholm faire une conférence et elle réussit à l'attirer dans son atelier pour lui montrer les grands tableaux. Elles en avaient fait avec ses copines, elles en avaient déjà fait 4. Et il dit, je vais construire une sorte de temple, Götternaum, qu'il a construit à Dornard, en Suisse. Et là, elle se dit, c'est pour lui, c'est pour eux, ces grands tableaux. C'est pour la théosophie, c'est pour l'anthroposophie. Alors, elle invite Steiner à venir voir ses tableaux. Et Steiner, il passe. Ils ne disent rien et elle ressort. Alors notre pauvre Ilma en est tellement mortifiée, il n'a aucune réaction. Mortifiée. Elle arrête de peindre pendant plusieurs années. Alors ça tombe aussi avec d'autres choses dans sa vie personnelle, des deuils, etc. Mais bon, des années plus tard, elle ira à Dornard étudier, donc au Götternaum de Rudolf Steiner. Donc elle va pour l'inauguration de ce fameux temple où se réunit tout le Gotha européen et américain. Tout le monde vient là étudier, écouter Steiner. Et elle est là, 1er janvier, dans la nuit du Bouddha Saint-Sylvestre, un incendie criminel. Il y a le feu, le Götternaum est complètement détruit. Et là, elle se dit... Ah, les esprits sont avec moi parce que si mes peintures... Si mes peintures avaient été là, j'en aurais plus. Mais Steiner, qui est quand même très fort et qui s'arrête pas à des petites choses comme ça, il se réveille et le lendemain matin, il dit « on va reconstruire le Götternaum ». Et d'ailleurs, il reconstruit, je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous là ont déjà vu ce que c'était, mais c'est une espèce de grand bâtiment qui ressemble à en béton, qui est très très fort. Et elle se dit « bon, bah, ce sera peut-être pour le deuxième ». Bon, et là... Non plus, elle n'est pas prise par les anthroposophes ni les théosophes, qui maintenant parlent d'elle, mais à cette époque-là, ils n'en veulent pas. Elle part, elle se fait une amie quand même, hollandaise, qui s'occupe d'elle et qui dit « mais si, moi j'aime beaucoup ce que vous faites, je vais m'occuper de vous ». Et elle va à Londres exposer ses tableaux, qui sont donc 3,25 m sur... et qui sont, c'est très fragile en fait, parce que c'est du papier marouflé sur de la toile, donc vous voyez ce que je veux dire, la coller sur de la toile, et elle travaille à la tempera, c'est-à-dire avec de la coquille d'œuf, des piments, etc. Donc ce sont des travaux très fragiles, et elle les transporte en bateau de Stockholm à Londres. Et là, elle fait partie il y a une grande manifestation où elle est exposée. La presse, personne ne les voit, ces tableaux. Personne ne fait aucun commentaire sur son œuvre, rien. Ce qui est quand même incroyable, c'est que cette femme a continué à la peindre des milliers de tableaux. Hein. Elle a fait tout ça sans aucune reconnaissance. Et à un moment donné, elle dit, alors maintenant j'entends... J'entends les gens dire, elle a décidé que ses peintures ne seraient pas exposées avant 20 ans, avant sa mort. Elle n'a rien décidé du tout, mais comme, euh, comme elle trouvait aucun moyen d'exposer, tout d'un coup, il y a une espèce de jeu. Elle a dit à son amie de l'époque, elle lui a dit, écoute, qu'elle était en train de faire des petits carrés. Elle choisissait, elle disait, écoute, allez, 20 ans après ma mort, peut-être qu'ils comprendront ce que j'ai fait. Elle est morte en 1944. La première exposition d'elle a eu lieu en 1986. Et là, on est en 2026. La Guggenheim, c'est en 2018. Et puis après, ça a commencé Londres, Düsseldorf, Bilbao, et enfin Paris. Mais c'est presque une consécration parce que je crois que ces tableaux-là vont être ramassés pendant un bout de temps parce qu'ils s'abîment un peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand elle est morte, elle avait un neveu, elle n'avait pas d'enfant. Et son neveu, elle a dit « Bon, bah, écoute, dans 20 ans, tu montreras mes toiles. » Mais le neveu, c'était un militaire. Elle est morte en 1944. À cette époque-là, tous les gens avaient autre chose à faire qu'à s'occuper de peinture. Et en 1972, tout d'un coup, il est allé au musée d'art moderne, parce que le musée d'art moderne de Stockholm avait été construit en 1958. Et il a proposé toute l'œuvre de sa tante. Et ces imbéciles ont refusé. Et donc, il a été très bien parce qu'il a fait une fondation. Il n'aurait pu rien faire du tout. Hein. Il a fait une fondation et il a attendu. Ils ont attendu et puis maintenant, c'est le triomphe total. C'est pour dire que pas facile d'être un artiste. Ce qui est formidable, c'est que comme c'est une fondation, quand on veut faire une exposition sur Kandinsky, on est obligé de faire le tour du monde et des collectionneurs ou des musées. Ilma Hafklin, tout est à la maison. Effectivement, donc c'est ça la chance.
On va faire une exposition à Saint-Véran l'année
prochaine. Voilà, à Saint-Véran. Oui, c'est ça qui est formidable, c'est que, sans doute... Alors, ce qu'il y a aussi, je vais vous montrer... Ces tableaux-là, ce tableau avec le cygne noir et blanc est très célèbre. Et il est là. Voilà. Le cygne, c'est le symbole de l'alchimie. Alors, les signes noirs et le signe blanc, c'est le yin et le yang, le masculin et le féminin, enfin, tout ce que vous pouvez voir. Et de ça, elle arrive à ça. Hein ? Mais de ça à ça, il y a 17 toiles. C'est-à-dire qu'elle travaille en série, pas du tout comme Kandinsky, qui lui faisait une toile. Elle travaille en série, 17 toiles. 17, c'est un nombre d'évolutions spirituelles. Donc là, vous voyez que les cygnes, là, ils ont des palmes bleues. Le bleu, alors, le noir et le blanc sont là. Le bleu, les palmes, le bec, toutes les couleurs sont là. Et ça, c'est ce qu'on appelle un taijitu, c'est-à-dire un tissu de méditation indien. Donc ça, c'est la dernière toile que j'aime beaucoup, enfin, qui est très belle, d'ailleurs. Et donc, elle part de ça, et elle arrive à ça, mais il y a 17 toiles. Alors, on en voit beaucoup, on en voit plusieurs au Grand Palais, on en voyait plusieurs, où on voit bien, c'est le mouvement. La série, c'est le mouvement, c'est l'évolution tremblée. On ne se décompose pas comme ça, la lumière. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à l'abstraction. Les 10 plus grands forment la partie la plus impressionnante de ce qui constitue désormais la fondation Ilma Hafklint. Les toiles sont remarquables par leur dimension, bien sûr, 238 par 240 cm, deux fois la taille d'un être humain. J'étais une petite femme de 1,57 m et je peignais par terre. Par leur technique aussi, peinte sur papier à l'huile et à la tempera, une peinture à l'eau avec de l'œuf, et par la richesse de leurs détails iconographiques, des motifs floraux en abondance, associés à des arabesques, à des formes géométriques, à des écritures. Ces 10 plus grands ont échappé à la critique et au marché de l'art. Une chance, les tableaux n'auront pas été dispersés par des marchands chez des collectionneurs à travers le monde. L'œuvre est restée entière, ce qui est très rare. Quelle étrange chose! Tout là-haut, dans le nord, 5 femmes qui communiquait avec les esprits, avait reçu comme ordre d'exécuter 10 grands tableaux pour l'ornementation d'un temple. Quel temple ! le temple auquel chacun peut avoir accès car il est à l'intérieur de soi, le temple de la sagesse et de la beauté. Notre mission, peindre des visions archaïques, dessiner des fragments d'informations issus de la vie originelle, tracer des schémas kabbalistiques et, par la beauté de cet assemblage insolite, déclencher une ferveur qui conduit à l'unification intérieure. Après le départ de mes quatre amis, je fus la seule à rester de ce côté-ci. Si un jour mon nom est connu comme artiste, il faudra dire que l'œuvre pour le temple est l'enfant des cinq. Ce que nous avons fait à ce moment-là peut être décrit comme une expérience unique dans l'histoire de l'art et dans celle des femmes. Sûrement, certains chercheront à décrypter qui est à l'origine de ceci ou de cela, qui a joué le premier rôle, qui a joué le rôle prépondérant, ces bêtements humains. Pendant 9 ans, nous avons canalisé une divine inspiration. L'œuvre n'existerait pas si l'une de nous avait manqué. Nous avons conjugué nos talents, nos imaginations, nos savoirs. Ce travail s'est construit dans le jeu délicieux de l'amitié féminine qui ne connaissait ni rivalité, ni égo mal placé, ni jalousie. Nous n'avions rien à prouver à personne. Nous étions des aventurières. Le travail que nous nous étions donné consistait à explorer des coïncidences et à établir une cartographie sacrée. L'intuition faisait office de boussole. Avec la théorie des couleurs et le dictionnaire des symboles, nous tracions des routes. Nous avions l'audace magnifique de ceux et celles qui ne se comparent pas, et l'audace, parfois, a du génie. Ose et tu obtiendras. Telle était notre devise. Tout comme les Chinois, il y a des milliers d'années, avaient trouvé dans le mugissement des rivières la grande note, le kung, que les physiciens modernes attribuent à la tonique de la nature, nous demandions aux esprits de nous inspirer une combinaison de couleurs et de formes qui reflèterait la grande âme du monde. Réalisée il y a plus d'un siècle, l'œuvre pour le temple, constituée des 10 plus grands, rencontre désormais son public, comme si sa mission était de réenchanter la planète, de reconnecter l'homme avec la nature, de mettre une charge de magie sur un monde que la technologie tend à rétrécir.
Merci beaucoup. Je voudrais déjà que tu nous expliques le titre de ton livre. Certains ont peut-être déjà découvert, mais « Femme, oiseau, étoile ».«
Femme, oiseau, étoile », c'est le titre d'un tableau de Miro, que vous avez peut-être en tête, enfin vous regarderez, « Femme, oiseau, étoile ». Quand je suis tombée sur cette image, sur ce titre, je me dis « Ah, génial !» Et puis j'ai découvert que Miro avait dû, comme moi maintenant, savoir que chez les Amérindiens, Femme, oiseau, étoile était le nom des chamans. Donc, ça allait pile poil pour mon Ilma, artiste et chamane.
Merci beaucoup, Véronique, pour c'était. Voilà, on connaît tout, là, on a l'impression vraiment d'avoir rencontré cette merveilleuse peintre. Alors maintenant, on va vous passer un morceau de musique. C'est notre technicien préféré maintenant, c'est pas depuis longtemps, mais voilà, qui est allé dénicher une chanteuse suédoise de l'époque d'Ilma et que probablement Ilma a écouté. Elle s'appelait Suzy Alice Babs Nilsson Nils Lins Hot. Bon, avec l'accent, vous. Voilà.
Thank you. had to walk if you know Susie like I know.